Congrès national des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
Pour combattre efficacement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Ouais. Cannabis Circus, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comme tous les lundis soirs sur Radio Canu, sur la plus rebelle des radios bien entendu. Cannabis Circus, l'émission du cirque, le collectif d'information et de recherche cannabique lyonnais, qui vous présente donc cette émission, voilà, comme tous les lundis soirs. Alors, ce soir, un peu comme la semaine dernière, on va reparler de la marche mondiale du cannabis, bien entendu à Paris, cette fois, parce que... la semaine dernière, bah, c'était à Lyon, à Poitiers, à Toulouse, à Nice, à Tours, je crois, à Lille, à Saint-Denis-de-la-Réunion, à Papeete. Voilà. Et donc, à Lyon, à Paris, pardon, ils font pas comme tout le monde, hein, ils ont voulu faire ça samedi, donc voilà, il y a trois jours. Un peu plus de monde qu'à Lyon. Bon, c'est pas bien difficile, hein, Paris est quand même une grosse ville. Pas non plus des dizaines de milliers de personnes, pas non plus des milliers comme il semblerait y avoir eu les années passées, non, c'est ce qui est écrit dans les articles de Metro News notamment, mais c'était pas vrai, mais enfin bon, au moins 500 personnes, hein, d'après les images, je dirais à peu près, ouais, à peu près ça, 500-600 personnes, je sais pas, c'est difficile. À dire, j'ai pas non plus vu d'estimation, genre selon les manifestants, selon la police, hein, ce qu'on peut lire c'est plutôt plusieurs centaines, voilà, on sait pas trop. Mais bon, quand même un peu de monde. Donc voilà, on va revenir là-dessus. Plusieurs articles, j'ai pas pris tous les articles, je les ai pas tous mis dans la revue de presse parce que sinon ça aurait fait trop gros. Mais voilà, Le Parisien en a parlé, La Dépêche.fr, Metro News, deux ou trois fois, Direct Matin. L'Express également a fait un article, pas mal du tout. Alors plus sur les arguments, plus que sur la marche elle-même. Europe 1 a fait un article bien, Europe1.fr, donc plutôt une radio, mais bon, sur le site internet d'Europe1.fr, il y a beaucoup d'infos qui sont plutôt connues par les militants, les cannabinophiles, mais bon, c'est quand même intéressant et important qu'on puisse les retrouver là, c'était assez complet. Voilà un peu pour la marche mondiale, on va voir ça un peu après la coupure musicale. On parlera un peu de cannabis et de people, de célébrités. Y a des célébrités régulièrement, tous les 6 mois, 1 an à peu près, quelqu'un qui fait un peu son coming out cannabique. Et là on verra un peu ce qu'en dit Morgan Freeman, grand acteur que beaucoup connaissent. Donc on verra un peu ce qu'il en dit. On ira faire un tour en Espagne vite fait, à Barcelone, un article du Courrier International sur les cannabis clubs barcelonais. Quelle stratégie pour limiter la consommation de cannabis chez les jeunes aux États-Unis? C'est pas un article, alors c'est un article du Parisien, mais ça nous parle des États-Unis. Un petit article rigolo aussi dans Slate.fr avec la légalisation du cannabis en Californie, dans l'Oregon et dans les États des États-Unis qui ont légalisé, donc le Colorado. Donc dans ces États-là, il se pourrait bien que les chiens policiers se retrouvent vite au chômage parce qu'ils n'auront plus grand-chose à renifler. Mais on nous dit qu'ils se concentreront sur les drogues « dures », entre guillemets. Je crains qu'il y ait des dérives par la suite. Si le cannabis soit légalisé, il faudra se battre là aussi. Je le pressens mal. Voilà. Donc voilà, on va écouter un peu de musique. On écoutera aussi tout au long de l'émission. Il faut quand même que j'oublie pas de dire ça. On écoutera aussi tout au long de l'émission des passages enregistrés de la marche mondiale à Lyon la semaine dernière avec des réactions des badauds qui étaient là dans les rues de la ville lyonnaise et qui ont réagi au micro de reporters courageux de Radio Canu, des différentes émissions qui animent la grille des émissions, voilà, toute la semaine Et puis on passera aussi de la musique et tout. Voilà. Bon, à tout de suite.
Sont là pour réclamer un changement de politique sur le cannabis.
C'est une surprise déjà, on tombe là-dessus voilà, au milieu de la journée. Moi j'approuve moyennement, enfin je pense que c'est un débat compliqué, je pense que ça peut ramener de l'argent aux caisses de la sécurité sociale si c'était légalisé, s'il y avait une, ça pourrait permettre de contrôler le trafic aussi.
Aux États-Unis, plusieurs États ont déjà changé la loi sur le cannabis et le cannabinoïde. Plusieurs États ont également changé la loi sur l'utilisation récréative du cannabis.
C'est arrivé par des activistes aux États-Unis dans la fin des années 90. Et donc maintenant, c'est dans les principales villes du monde. Ça attire, c'est-à-dire des milliers de personnes à Rio, à Rome, à Berlin. Malheureusement, en France, on arrive à être à peu près 1000 à Paris. Malheureusement, voilà, à Lyon, on attire que 300, 150 personnes, quoi. Et c'est vraiment Paris où il y a le plus de monde en France.
Après l'état du Colorado et l'état de Washington il y a 3 ans. Dernièrement, c'est l'état de l'Alaska et l'état de l'Oregon qui viennent de légaliser l'usage du cannabis à des fins récréatives.
Ben, moi, je suis contre. C'est interdit, c'est interdit. Cette plante, je sais pas, elle est interdite, elle n'est pas bien pour la santé, alors je suis contre cette manifestation.
Pourquoi pas, je sais pas. C'est un peu surprenant quand même parce que ça ouvre la porte à d'autres choses après. Ça ouvre la porte à l'héroïne, la cocaïne, à banaliser d'autres choses un peu plus fortes. Donc libéraliser pour le thérapeutique, ouais, mais peut-être pas comme en Hollande où ça devient quand même assez anarchique. Moi, ça me ferait chier que mes enfants fument du cannabis le soir pour aller se détendre, par exemple. Parce que je sais que derrière, il y a des effets quand même secondaires.
Moi, je suis venu parce que de base, je suis fumeur. Et que ce que je comprends pas, c'est que enfin, je suis pas fumeur tous les jours, mais occasionnellement. Et que quand on se fait arrêter parce qu'on a fumé un joint ou qu'on a un joint ou autre sur nous, autre stupéfiant, et ben le problème, c'est qu'on peut finir en garde à vue à cause de ça. Et ce qui n'est pas normal que dans d'autres pays, c'est autorisé. Donc pour moi, je dis, il faudrait que ce soit partout pareil.
Nous, on fait du travail de terrain au cirque. Donc on parle beaucoup avec les gens. Et les gens qui seraient plutôt pour, voire consommateurs, ils viennent pas parce qu'ils ont peur. Tout simplement, quoi. Ils ont peur de se faire reconnaître après dans leur lieu de travail, dans leur famille, voilà. Et puis le sujet, on ne sait pas pourquoi, mais il fait rire en France, il fait sourire, quoi. Et du coup, les gens, ils ne prennent pas trop au sérieux. Vous voulez légaliser le cannabis, voilà, vous voulez être raide toute la journée, alors que bah, nous, on leur dit que c'est pas du tout ça, quoi. Et on parle quand même du cannabis thérapeutique, quand on parle de récréatif, dans la prohibition, on parle quand même de gens qui ont des ennuis avec la police, qui peuvent se retrouver en prison, même s'ils vont pas en prison, ils peuvent aller en garde à vue pour quelques pieds. Et par contre, voilà, donc nous on explique s'il y a peu de monde en France. Déjà, c'est qu'on a peut-être du mal aussi à faire une grosse promo, quoi. Les médias, ils nous suivent très très peu. Avant l'événement, ils parlent pratiquement pas de nous. Donc maintenant, on a les réseaux sociaux, mais ça vaut ce que ça vaut. Enfin, la raison principale, je crois que c'est la peur.
Globalement, il n'y a rien de méchant, au contraire, non ? Voilà. De toute façon, on peut empêcher les gens de s'empoisonner, ça ne les empêchera pas de mourir. On vit dans le couloir de la chimie. Moi, ça m'amuse. On n'en est pas un paradoxe près. De toute façon, les gens fument du cannabis ou pas, de toute manière, on est les plus gros consommateurs d'antidépresseurs au monde. Il faudrait quand même qu'ils le sachent, là, au ministère de la Santé, il y a peut-être des raisons. Ah ouais, arrêtez d'emmerder les gens avec des conneries pareilles. Ça oui, pourquoi pas, parce que c'est vraiment des conneries. De toute manière, on l'interdit, mais toutes les prisons sont pleines. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Rien. Donc de toute manière, ça sert à rien. Les flics, ils auraient peut-être autre chose à faire que s'occuper de ça. Je suppose, puisqu'ils pleurent qu'ils sont en sous-effectif. Donc, qu'ils foutent la paix aux fumeurs de cannabis et qu'ils s'occupent de trucs un peu plus graves.
Bah oui, je trouve ça un peu choquant. Moi, j'ai jamais vu ça, c'est la première fois, je suis belge.
Ah ah, choquant. Ça, c'était donc le son, les réactions de la marche mondiale lyonnaise à la semaine dernière, samedi 2 mai, de la place Carnot à la place des Terreaux. Voilà, des réactions diverses et variées. Voilà, donc samedi dernier, le 9 mai, donc c'était Paris qui défilait. Alors plus de monde à Paris, là dans les articles du Parisien, de Metro News, la Dépêche, Corse Matin également s'est fendu d'un article pour parler de la marche mondiale parisienne. Je sais pas s'il y avait eu une marche mondiale à Bastia, à Ajaccio, à Corté, je n'ai pas été au courant de ce qui s'est fait en Corse, peut-être rien. Je sais pas, bon bref. Donc à Paris, plusieurs centaines de personnes. Apprend-on dans les médias. Bon, quand on regarde les vidéos sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit qu'il y a largement plus de 300-400 personnes. Nous n'avons pas le chiffre officiel, entre guillemets, selon la police, parce que souvent c'est un peu ça, selon les manifestants, il y avait tant de personnes, selon la police, il y en avait tant d'autres. Donc là, dans les articles que j'ai parcourus, je ne trouve pas ce chiffre, mais bon, peu importe. Donc cette marche mondiale parisienne a été quand même, semble-t-il, un succès. Esther Benbassa, la sénatrice Europe Écologie Les Verts, était présente à la manifestation, au départ de celle-ci, en tout cas, place de la Bastille. Et Esther Benbassa, qui a été entendue par les médias, qui a été interviewée, et qui disait ceci, par exemple, « Il y a encore l'idée que le fumeur de cannabis est sur la mauvaise voie s'il consomme tous les jours. C'est de l'addiction, il faut un accompagnement, mais c'est comme pour l'alcool. » Et elle réclame une législation sur un problème de santé publique. Qui c'est qu'on pouvait trouver d'autre à cette marche ? Il y avait également les sœurs de la perpétuelle indulgence. Alors dans le parisien.fr, on nous explique que c'est un jeune travesti, membre des sœurs de la perpétuelle indulgence. Visiblement, ils ne savent pas trop aux parisiens qui sont les sœurs de la perpétuelle indulgence. En tout cas, c'est super qu'elles étaient là. Donc un groupe de militants lesbiennes, gays, bisexuels et trans en habits religieux. pouvait-on lire, coloré en plus. Et ce militant, cette militante disait, voilà, quand on a des traitements lourds très compliqués, l'usage du cannabis pour ces personnes-là est au-delà du nécessaire, c'est vital. Les militants, cette militante ou ce militant dénonçait également le cliché des vieux hippies. Les vieux hippies, c'est la seule chose qui permet à certains enfants épileptiques de vivre. Le cannabis, hein, pas les hippies, je précise. On ne leur fait pas fumer des pétards, mais on leur donne un mélange de cannabis avec du lait, des cookies ou des gélules. Et en les ingurgitant de la sorte, ils peuvent ensuite, ces enfants, aller à l'école. Ils ne sont pas plus légumisés ou pas légumisés comme avec certains médicaments. Il y avait Alain aussi à cette marche qui nous disait il y a de vrais lobbies pharmaceutiques, le cannabis pourrait être un antidépresseur abordable. Alain, quinquagénaire, regrette la diabolisation de la substance dans les campagnes de prévention soutenant l'idée d'un usage récréatif. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait lire d'autre dans ces articles? Alors on apprend également que apparemment il y avait surtout des jeunes à la marche mondiale, alors qu'à Lyon la semaine dernière c'était assez panaché, mais bon, on n'était pas très nombreux non plus, il faut dire. Ah oui, ce témoignage de Béatrice, 52 ans, Béatrice atteinte d'une maladie du système nerveux et vivant avec le VIH. Béatrice, 52 ans, raconte qu'elle était dans un fauteuil roulant il y a 20 ans, pardon, donc il y a quand même un petit moment. Mais elle dit, voilà, depuis que je fume du cannabis, je vais mieux, je remarche, ça augmente les effets de la trithérapie et ça m'aide à manger. Béatrice consomme depuis une quinzaine d'années environ entre 0,8 et 1 gramme de cannabis par jour, soit l'équivalent de 3-4 pétards. Et elle est soutenue et encouragée par son médecin. Elle cultive elle-même ses plantes dans son jardin, elle essaie d'être discrète comme elle dit, elle rajoute, c'est prouvé, la consommation de cannabis dégringole et la violence également dégringole si c'est légalisé. Et effectivement, c'est en tout cas ce que semblent donner les premiers résultats au Colorado. Et elle rajoute que si c'était légal, des milliers d'emplois seraient créés avant la fin, seraient créés avec la fin de la loi de 70, pardon. Voilà un peu pour le Parisien. Dans Metro News, pas grand chose de plus. Bon, là, ils ont un peu plané, je trouve, sur les chiffres, puisqu'on nous dit comme ça que la marche mondiale, les années précédentes, ça avait rassemblé 2000 personnes à Paris. Alors nous, on connaît quand même bien la situation, même à Paris, les dernières marches mondiales, il n'y avait pas 2000 personnes. Voilà, c'était bien à Paris, hein, c'était pas à Marseille, donc bon, ils se sont vus 2000, bref, pourquoi pas. Non, ils n'étaient pas 2000 les années précédentes, cette année, plusieurs centaines, ouais, peut-être 400-500 comme je disais au début. Donc c'est Farid Guéwesh, hein, qui était le coordinateur du comité ad hoc d'organisation de la marche mondiale du cannabis. Farid, qui était à l'initiative de Cannabis Sans Frontières. Il y avait également Chambre et Liberté qui appelait à la marche à Paris. Donc cette journaliste de Metro 12 qui demande à Farid, la marche mondiale du cannabis, ça fait 14 ans que ça dure, est-ce qu'on est toujours autant motivé? Réponse, bah oui, plus que jamais, on défile depuis 2001, on n'a toujours pas obtenu gain de cause, la France est l'un des pays d'Europe à la législation la plus sévère, et on continue de faire l'autruche en se cachant la tête dans le sable. Mais ce n'est pas vraiment le chiffre de mobilisés qui compte sur les centaines de personnes, c'est la constance de nos revendications, car à l'heure actuelle, la dépénalisation, ça urge, et je rajouterai entre parenthèses la légalisation aussi. Pourquoi n'a-t-elle jamais été aussi nécessaire selon vous? Il ne s'agit pas seulement d'offrir un accès thérapeutique à certains patients, mais bien de mettre fin à une catastrophe sanitaire. Les statistiques sont alarmantes, la consommation est devenue massive et elle commence de plus en plus tôt. Par ailleurs, depuis peu, de nouvelles drogues quasi légales qu'on appelle cannabinoïdes de synthèse se développent rapidement. Elles contiennent des molécules qui imitent pourtant les effets du cannabis et se trouvent facilement accessibles sur Internet et dans des boutiques peu scrupuleuses. Pourtant, elles sont très dangereuses pour la santé. Effectivement, il y a eu des accidents ces derniers mois. Pardon. Je suis persuadé que la légalisation du cannabis rendrait ces produits beaucoup moins attractifs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Moi, je suis même persuadé que si c'était légalisé, ces produits disparaîtraient. Ils n'ont aucun intérêt. Ensuite, prochaine question. Croyez-vous vraiment qu'un jour la dépénalisation deviendra une réalité en France? C'est en bonne voie, en tout cas, je suis reconnaissant, nous dit Farid envers Esther Benbassa, qui a défendu en début d'année une proposition de loi pour autoriser la vente du cannabis au détail. Le projet a certes été très vite avorté, parce que le PS n'a pas daigné en discuter, mais il a quand même eu le mérite d'exister, d'être là et de poser le problème. En Uruguay, le gouvernement a été plus courageux. C'est vrai. Avec, voilà un pays qui a affronté l'opprobre et l'hypocrisie internationale. Ici en France, j'ai l'impression qu'il faudra attendre après 2017, au vu des signaux donnés par le gouvernement actuel. C'est bien dommage, car la fin de la prohibition est utile, urgente et importante. Alors Farid est optimiste, il faudra attendre après 2017, je sais pas pourquoi, moi je verrais même plutôt 2022 ou 2027, mais 2017 ça serait très bien. Voilà un peu donc pour Metro News, oui c'était bien Metro News en effet. Voilà, on va réécouter quelques petits bruits de la rue de la marche mondiale lyonnaise la semaine dernière, puis on revient pour finir... pour avancer encore sur la marche mondiale parisienne, à tout de suite.
Je trouve ça un peu choquant, moi j'ai jamais vu ça, c'est la première fois, je suis belge, et je trouve ça vraiment aberrant que les gens manifestent pour légaliser le cannabis.
Moi je suis contre la libération du cannabis, parce que je trouve que, non, c'est pas bon, je n'aime pas les drogues.
Nous sommes des citoyens responsables, comme vous, comme tout le monde, et on en a marre d'être traités comme des délinquants et des malades. Et c'est pour ça qu'on est dans la rue aujourd'hui. Marche mondiale du cannabis, faites tout le monde.
Je suis là pour qu'on change les lois en fait, parce que de la même façon que dans les années 60, les lois ont été changées dans les rues pour les droits civiques aux États-Unis et d'autres lois, ou les lois sur les femmes ou pour le droit de vote, etc. Ben, c'est dans la rue que ça se passera aussi pour faire comprendre à nos politiques qu'il y en a marre de cette politique de la répression, de la stigmatisation qui ne fonctionne pas et qui n'est pas... ni juste, ni même socialement viable en fait.
Moi, je suis des gens depuis des années. Que ça fasse quelque chose à moi, bon, certes, mais ça fait surtout rien à personne d'autre que moi. Jusqu'à maintenant, j'ai fait chier personne. Voilà. Par contre, moi, on m'a bien fait chier en garde à vue, un truc pour possession de cannabis. Alors, à part m'avoir fait perdre des heures de boulot, c'est tout ce que ça a servi, et certainement pas à me faire arrêter de fumer. Donc voilà, ben on est là pour revendiquer.
Marre de la prohibition du cannabis, marre de l'immigration, marre du clivage, de la surveillance.
On est toujours sur le haut du podium en ce qui concerne la dureté de la loi. Parce qu'il faut dire qu'en France, quand même, si on regarde la loi, un joint, c'est un an de prison. Un pied de cannabis, c'est 20 ans de prison. Voilà, ça, la loi, elle est instaurée comme ça, quoi. Et c'est une des plus répressives en Europe. Et effectivement, je ne sais pas si vous avez dû tous voir dernièrement les médias qui ont dit que, d'après des rapports, il y a une augmentation de la consommation de cannabis chez les jeunes en France. Et effectivement, on est parmi les plus nombreux à consommer du cannabis en Europe, quoi. Donc voilà, nous aussi, voilà, on pointe du doigt ce genre de choses, quoi, et expliquer, voyez, votre prohibition, elle ne fonctionne pas du tout, quoi. Plus vous interdisez, plus les lois sont sévères et plus il y a du trafic, parce que plus ça attire des gens à gagner de l'argent sur ces produits interdits, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on prône aussi un changement de politique pour essayer d'apaiser tout ça, qu'il y ait un contrôle sur la qualité des produits qui sont vendus et qu'il y ait enfin une information, une prévention.
Optimiste, ça serait un grand mot. On sera les derniers à le faire certainement, quoi, mais bon, vu que ça évolue dans le bon sens un peu partout dans le monde, peut-être qu'une chance que dans 20 ou 30 ans en France, ils suivront la marche, quoi. Ça en sera retraité.
Ah non, il ne faut pas la changer, hein. Il faut la réprimander, au contraire. Bien sûr que c'est pas bon le cannabis. Ça détruit les neurones et tout ça. Et pour les jeunes et tout, ça faire marche arrière pour les gens, au lieu qu'ils avancent, ben, ils vont reculer. Faut pas. C'est comme l'alcool. C'est interdit, ça devrait être interdit. Ben, c'est ce qu'on apprend à l'école après, hein. C'est ce qu'on dit. Je pense pas que ce soit bon pour la santé. Il faut interdire tout ça. Je pense qu'on est en France. On a un pays bien ouvert et tout, mais là, à ce point-là, je pense pas qu'il faut. Je pense qu'il faut pas en arriver là. Légaliser le cannabis, ça serait tout le monde fumerait à l'âge de 12 ans. Déjà que les gens ils fument comme ils veulent. Alors si on commence à légaliser ça, c'est fini.
Ah oui, si on légalise, vous imaginez bien le problème. Tout le monde va vouloir consommer du cannabis. Voilà. D'ailleurs, l'alcool est légal et j'aime pas l'alcool, mais du coup, je me suis mis à boire de l'alcool. Parce que n'aimant pas ça, et comme c'est légal, je me suis précipité dans les rayons pour me saouler la gueule et boire de l'alcool jusqu'à plus soif. Bon, voilà. J'imaginais bien que ça marche pas comme ça. Alors que c'est le contraire, c'est l'inverse, c'est la prohibition qui incite malheureusement des gens et notamment parfois des jeunes à consommer cette substance qui finalement est pas aussi intéressante que ça. Et j'insiste, hein, l'aspect récréatif du cannabis c'est certainement pas le plus important ni le plus intéressant. Le chanvre c'est une plante avec laquelle on peut faire tellement de trucs que franchement le côté psychotrope c'est finalement le moins intéressant, l'un des moins intéressant. Alors après, oui, bon, il peut être important, en tout cas pour des gens qui souffrent, qui peuvent être malades. Effectivement, les cannabinoïdes, les substances psychotropes qu'il peut y avoir, les terpènes, tout ça, ça peut avoir un impact au niveau médical, bien entendu. Donc, bon, voilà. C'est ça qui est important, surtout. Bon. Alors, on avance, on reste toujours sur... Dans l'actualité à propos de la marche mondiale, l'Express a fait un article très bien, marche du cannabis, les arguments en faveur de la dépénalisation. Un autre article très très bien aussi dans Europe1.fr, dépénalisation du cannabis, où en est-on en France? Un article du 9 mai, donc du samedi même. L'article de l'Express était daté également du 9 mai, le jour même. Alors, je vais essayer de faire vite. Parmi ce qu'on peut lire dans l'article de l'Express, notamment, les Français sont pour la dépénalisation. En tout cas, ce que dit l'Express, 78% des Français sont contre la vente libre du cannabis, 6 sur 10 estiment qu'on pourrait autoriser l'usage de cannabis sous certaines conditions, contre 3 sur 10 en 2008, relève l'OFDT. Donc ça, c'était un peu justement l'argument un peu phare du communiqué de presse qu'avait diffusé le Cirque et les autres organisateurs pour la marche mondiale lyonnaise, qui était justement de dire que de plus en plus de gens aujourd'hui considèrent que interdire l'usage du cannabis est une atteinte aux libertés. Ensuite, ce qu'on peut lire dans cet article de l'Express, c'est que apparemment la loi ne serait plus appliquée à la lettre. Alors, plus appliquée à la lettre en France. On nous reparle de la loi 70, un maximum d'un an de prison, 3 750 € demande, comme le disait Christian tout à l'heure pendant la marche. Mais dans la pratique, nous dit-on, l'emprisonnement pour usage est exceptionnel. Les amendes, elles, perdurent, mais dans leur rapport parlementaire sur la question, deux députés ont proposé l'année dernière que le délit devienne une contravention de troisième catégorie, passible d'une amende de 450 €. Ce qui tend à montrer que la législation actuelle n'est pas adaptée. De fait, la police verbalise, mais sa mission principale est de se concentrer sur le trafic. Donc encore une fois, là, j'aimerais bien tordre le cou à cette idée comme quoi on n'appliquerait pas trop la loi. Et du coup, ça me fait penser à cet article, ou à ces deux articles hein, dont on a encore assez peu de temps pour parler. Là, il y a un article sur le blog de Mediapart, contre le trafic de drogue, une guerre discriminatoire. Ou guerre aux drogues, guerre raciale également, on en a parlé un petit peu quand même. Alors en tout cas, quand on lit l'Express, on a l'impression qu'on se fait plus trop arrêter, qu'on prend un PV. Et sauf que quand on s'intéresse justement aux conséquences de la guerre à la drogue, et si on prend le temps d'entendre que, en tout cas ce sont les faits, que la guerre aux drogues en France c'est d'abord une guerre raciale, et j'ai envie de dire pas qu'en France, là c'est autre chose. Alors là, je saute un peu dans l'article de Mediapart, là, je reprends cette phrase. Depuis 3 décennies, notre pays livre une guerre sans merci aux soi-disant trafiquants de drogue. Sûrement par hasard, la plupart de ceux qui vont en prison sont noirs et arabes, pour reprendre une formule célèbre. Il serait temps de réfléchir aux items raciaux qui imprègnent notre inaltérable lutte contre les stupéfiants, au point de se demander quel lien paradoxal cette croisade entretient avec l'islamisme d'un côté et la montée des mafias de l'autre. Et si l'apartheid dénoncé par Manuel Valls trouvait son origine dans une chasse au crâne bronzé qui commence dans les années 80. Voilà, donc effectivement, la loi n'est plus tellement appliquée à la lettre, sauf, j'ai envie de dire, pour une partie de la population française qui vit dans des quartiers un peu éloignés des centres-villes qu'on appelle banlieues et qui sont pas considérés comme de vrais Français par beaucoup de nos concitoyens. Et ben ce sont eux comme par hasard qui sont arrêtés et qui vont en prison. Ce sont eux comme par hasard qui sont arrêtés et qu'on considère comme des trafiquants. Donc voilà, j'insiste hein, là-dessus parce que c'est pas vrai que de dire que la loi est plus appliquée, qu'on met plus de gens en prison en France. C'est faux, hein. Il y a toujours entre 800 et 1000 individus qui sont envoyés derrière les barreaux et parfois pour de l'usage, alors on fait passer l'usage pour du trafic ou de l'usage-revente, mais bon c'est bien commode. Donc voilà, c'est faux de dire qu'on ne va plus en prison aujourd'hui. Alors d'autres arguments intéressants quand même, hein. La pénalisation n'empêche pas la croissance de la consommation. Et ben là c'est intéressant, alors du coup effectivement c'est également ce que disent ce qu'ont dit les différents rapports parlementaires, ou les différents rapports, là c'est celui de l'OFDT. La France se distingue clairement en Europe en étant le seul pays avec un niveau largement supérieur à 15% de consommateurs chez les adolescents, et chez les adultes c'est pareil, on est l'un des pays d'Europe où on consomme beaucoup, le plus quasiment. Selon l'OFDT, il y aurait près d'un million de consommateurs réguliers, 500 000 usagers quotidiens, bon c'est des estimations, il y en a certainement, vous pouvez à mon avis multiplier par 4. Et on nous dit que la consommation est repartie à la hausse chez les jeunes de 17 ans, près de d'un sur deux a déjà expérimenté en 2014, bon ça on le dit régulièrement. Les substances auraient besoin d'être contrôlées, notamment le taux de THC, intéressant, pourquoi pas. Géraldine Guilpin, présidente des jeunes radicaux de gauche, explique qu'une légalisation serait plus judicieuse et pourrait avoir des effets positifs. Et là, effectivement, elle reparle un peu de ce qui se voit au Colorado depuis quelques mois, depuis un an et demi à peu près. Une baisse de la criminalité globale et des conséquences positives sur la santé et une manne financière pour l'État réinvestie dans les programmes de prévention et les écoles, je rajoute. Elle nous parle également de... Alors ça, non, c'est l'Express qui nous parle du fameux rapport de Terra Nova qui a été publié il y a quelques mois par Pierre Kopp, notamment un économiste de la drogue, qui disait que l'État pouvait économiser jusqu'à 2 milliards d'euros par an. On nous parle également de l'essor de l'autoculture. Il y aura entre 100 à 200 000 autocultivateurs en France. Donc voilà un peu pour l'Express et qui permettait de mettre un peu en lumière, en avant, les arguments des pro-légalisations. On y retourne un peu dans la rue, alors. Allez, à tout de suite.
Marche mondiale, dernière ligne droite avant d'arriver à la place des Pierrot, avant de faire la jonction avec le rassemblement contre le projet de réforme sur la surveillance et la sécurité.
Quand on aura tout gagné, c'est le
nous, au cirque, c'est pas trop notre problème de savoir quand. Mais surtout, c'est de savoir comment il y aura un changement de politique, quoi. Parce qu'on est vraiment contre le mode de légalisation du tabac, par exemple, où n'importe qui peut acheter du tabac, où les gens qui vendent le tabac, ils sont payés en rapport au nombre de paquets qu'ils vendent. Et ça, on trouve ça pas du tout normal. On pense que les gens qui vendent des drogues, ils devraient avoir un stage, qu'ils doivent être formés à vendre de la drogue. Parce que le tabac, l'alcool, le cannabis, c'est des drogues. Donc on pense vraiment que dans une mode de légalisation, ça doit être dans des lieux où les gens ils puissent vous informer et ils aient le temps de le faire, quoi. Ils ne sont pas tenus à vendre du cannabis pour gagner beaucoup d'argent.
Et je pense que ce serait pas mal de légaliser le cannabis, ça éviterait tout le marché parallèle. Moi, je suis pas consommateur, donc je m'en fous, mais...
Je ne fume pas spécialement, mais ouais, je trouve ça bien de légaliser ça. Il y a beaucoup de choses à revoir en France, et notamment ce point-là, certainement. Ouais. Oui. Je pense qu'il va falloir changer ça. Ouais. Je ne pense pas que les mentalités sont prêtes pour évoluer de cette façon pour l'instant encore. Je pense qu'il y a trop de politiciens qui sont contre ce genre de choses, donc je pense que ça passera pas, mais une marche, oui, ça peut aider à faire bouger les choses.
Il est interdit de dire que le cannabis...
Moi, je suis contre, hein, parce que ça va amener de plus en plus de drogués. Et nos enfants, nos petits, enfin moi, mes enfants maintenant sont grands, mais mes petits-enfants, je ne sais pas trop ce que ça va donner, parce qu'ils vont tous se lancer là-dedans, si ça leur donne des petites idées ou alors il faut que ce soit dans quelque chose de restreint. C'est-à-dire que bon, qu'il y ait des assemblées où ils ont le cannabis, mais pas que ce soit promène partout dans la rue, qu'il y ait des coins spéciaux pour ça.
Moi, je pense qu'il faut évoluer. Il y a pas mal de pays qui ont déjà évolué par rapport à ça. En France, c'est un pays très conservateur, donc il y a toujours une forme d'hypocrisie. L'alcool est légal, le tabac est légal, le cannabis, le moment que ce soit contrôlé, je pense que ce serait bien. Je pense que ce serait mieux que ce soit contrôlé et en vente, entre guillemets, libre, contrôlé, que comme c'est fait actuellement, parce que c'est un secret polichinelle. Beaucoup de personnes fument du cannabis, donc ça, je pense, serait bien.
Respect to the Hit Squad. Celui-là, on le met après. Hein. Après, ok. Alors, vous entendrez. Donc oui, pour finir sur la marche mondiale, on va maintenant parler un peu de cet article d'Europe 1, alors qui reprend quand même pas mal d'éléments de l'article de l'Express juste avant. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dont je ne vous ai pas parlé Alors, combien de consommateurs en France alors, on l'a vu. Alors, deux petites précisions en plus, toujours d'après le dernier rapport de l'OFDT. Hein. Alors, d'après les dernières estimations qui datent de 2011, il y aurait 3,8 millions de Français qui sont des consommateurs occasionnels, parmi lesquels on compterait 1,2 million de consommateurs réguliers. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, juste avant, cela reste des estimations. On est quand même assez nombreux hein, quand on lit ça, même si ça reste des estimations. Et on aimerait quand même qu'à Lyon, une grande ville de France, il y ait un peu plus de 60 personnes qui se mobilisent pour la marche mondiale du cannabis. Surtout que on voit bien quand on entend ce qu'on entend là, hein, que là il y a des gens qui réagissent au micro, qui sont des gens dans la rue qui n'étaient pas au départ de la marche, mais qui voilà ont des avis également, et on sent bien que ça peut évoluer quand même, même si le dernier auditeur là disait que le dernier à parler là expliquait que voilà, la France était un pays conservateur et tout. Bon, c'est vrai. Et Lyon, en plus, c'est une ville conservatrice. Donc bon. Mais il y a quelques années, on était plus nombreux à la marche mondiale à Lyon et à l'appel du 18 juin quand même. Mais voilà, à croire que Lyon, c'est l'une des grosses villes de France où les cannabinophiles ont le plus peur. Je sais pas. Donc ensuite, les Français parmi les plus gros consommateurs d'Europe, là aussi on reprend ça, près de 6% des Français goûtent donc au cannabis chaque mois, 6% des Français. Hein. Mais cela fait-il pour autant de l'hexagone un gros consommateur? Et pour répondre à cette question, il faut voir un peu les résultats avec l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Et là, on se rend compte qu'effectivement la France est un gros consommateur. À l'inverse, il y a des pays qui consomment peu. Alors je vais vous les citer. La Grèce, Malte et la Roumanie figurent plutôt en fin de classement. Mais la France, la République tchèque et l'Espagne sont plutôt tout en haut. Donc sur le podium. Qui autorise quoi en Europe? Pouvait-on lire aussi dans cet article d'Europe 1, on apprend que en France on n'autorise rien. Que chez nos voisins, la situation est très variable. Alors, il y a des erreurs aussi. Hein, le cannabis est autorisé aux Pays-Bas. Non, le cannabis n'est pas autorisé aux Pays-Bas. Il y a une tolérance aux Pays-Bas, une tolérance au niveau de la consommation, mais il n'y a pas d'autorisation. Voilà. Dépénalisé pour son usage personnel au Portugal, c'est exact. En Espagne également, en Belgique, c'est plus vraiment vrai parce que ils sont en train de revenir en arrière là depuis quelques mois. En Belgique, et oui, ils reviennent en arrière. Et ça paraît incroyable, mais bon. Alors qu'il y a des pays qui repartent de l'avant, l'Allemagne, la République tchèque, ils sont devant depuis 6 ans. En ce qui concerne l'usage thérapeutique, on nous explique qu'en Allemagne, et là en Belgique c'est vrai, hein, en Suisse, là on est quand même assez en avance, dans le reste de l'Europe, c'est l'interdiction qui prédomine. Et au final, la législation n'a qu'une influence relative sur la consommation, nous dit-on. Voilà, après on repart sur les chiffres de ce que ça pourrait rapporter, c'était légal, je ne vais pas en reparler. Mais pour terminer, 2-3 petites infos intéressantes où on nous dit que il y a des pays où la drogue est déjà comptabilisée dans le PIB. Des sommes telles que d'autres statisticiens, et notamment ceux de la Commission européenne, ont récemment du changer de paradigme, effectivement. Depuis le 1er septembre 2014, les États membres de l'Union européenne sont censés prendre en compte l'économie souterraine dans le calcul de leur PIB. Donc il faut quoi ? Il faut comptabiliser le travail au noir, mais surtout, aussi et surtout les richesses générées par le trafic de drogue et la prostitution. Alors dans certains pays, comme aux Pays-Bas, c'était déjà fait. Voilà, Eurostat disait qu'en fait, pour pouvoir faire des comparaisons comparables entre les différents pays, il fallait qu'ils tous aient le même mode de calcul. Et on faisait pas ça en France. Alors du coup, la France et l'INSEE ont accepté d'incorporer dans le calcul du PIB la drogue. Ils ont accepté, finalement. Par contre, ils ont dit non pour la prostitution. Pourquoi ? Ben, l'argument abolitionniste, je dirais, par excellence, classique. L'Institut a estimé que la majorité des prostituées vendaient leur corps sous la contrainte, souvent sous la coupe de réseaux mafieux, quand elles ne sont pas mineures. Donc voilà, c'est le point de vue abolitionniste du mouvement du Nid, hein, qui est l'organisme catho abolitionniste qui a pignon sur rue en France et qui influence malheureusement fortement les politiciens. En tout cas, à l'INSEE, on a ce point de vue-là, quoi. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour la marche mondiale. On va s'arrêter là aujourd'hui. On en reparlera peut-être un peu la semaine prochaine. Je vous disais la semaine dernière qu'il y avait eu d'autres pays du monde où on avait manifesté et on avait vu les infos tourner sur les réseaux sociaux, mais que les infos souvent elles sont dans les langues originales et que ben c'est difficile de comprendre et de commenter des textes qui sont en hongrois, en tchèque, en bulgare ou en roumain. L'espagnol c'est plus simple, l'anglais aussi, mais bon voilà. Donc en Europe il y a eu pas mal de mouvements de foule dans différents pays, même l'allemand, on parle pas allemand au cirque. Voilà, après bon, on peut lire les chiffres, hein. Alors, effectivement, je vous rappelle, à Vienne en Autriche, 12 000 personnes. Mais surtout, Buenos Aires, 150 000 personnes. Un truc de dingue, quoi. En Amérique du Sud, encore une fois, cette année, et notamment en Argentine, beaucoup, beaucoup de monde dans la rue pour demander un changement de politique sur le cannabis. L'Amérique latine qui est, avec les États-Unis, en pointe du canactivisme pour demander un changement de politique et exiger voilà, au moins une dépénalisation, voire une légalisation. Et en Amérique latine, ça avance vite. Moi, je pense que ça avancera largement aussi vite qu'aux États-Unis. Bon, voilà. Donc, beaucoup de monde, et on en reparlera, hein, parce qu'on aura sans doute au bout d'un moment, les traductions. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va, par contre, cette semaine, je l'ai mis dans ma revue de presse, mais on n'aura pas le temps de s'intéresser sur une possible dépénalisation du cannabis en Tunisie. Même si les choses avancent, même s'il y a eu des débats là dernièrement à l'Assemblée tunisienne, et notamment une réforme de l'article 52, de la loi 52 notamment, sur les drogues. Voilà, j'aurai pas le temps cette semaine, mais je le garde sous le coude pour la semaine prochaine. Voilà, people, un petit peu de people avant de partir en musique. C'est dans Metro News aussi, Morgan Freeman explique pourquoi il prend du cannabis. Voilà. Alors après. Plusieurs célébrités, alors Snoop Doggy Dogg, j'en parle même plus, mais l'année dernière c'était Whoopi Goldberg, une actrice aussi, qui avait déclaré qu'elle était une fumeur très régulière de cannabis et que ça l'aidait pour différentes raisons. Je sais pas s'il y avait une revendication thérapeutique, je me rappelle pas exactement, mais là c'est Morgan Freeman, lui, qui a une revendication récréative certes, mais aussi thérapeutique. Donc il a accordé récemment une interview sur un site américain qui s'appelle Daily Beast. Donc Morgan Freeman, qui a 77 ans, dans cet article a évoqué sa consommation régulière de cannabis et pourquoi il militait pour sa légalisation. Alors il a eu un accident de voiture en 2009, il s'est retrouvé avec le bras gauche brisé. Et plusieurs années plus tard, donc 6 ans après, il a toujours pas retrouvé l'usage complet de son bras gauche et il a toujours mal. Et il dit que la seule chose qui le soulage, c'est la marijuana. Et en fait, c'est sur les conseils de sa femme qu'il a essayé la marijuana et depuis, il en fait un usage quotidien, dit-il. Comment je le consomme ? Ben, peu importe. Je le bois, je le fume, je le mange ou je le sniffe. J'ai des douleurs dues à une fibromyalgie dans ce bras et la seule chose qui me soulage, c'est la marijuana. Il y a quelques années, il avait déjà déclaré au Guardian qu'il n'avait aucune intention d'arrêter de fumer du cannabis. Et il avait dit « La ganja, c'est l'herbe de Dieu », avant d'expliquer qu'il puisait également son énergie et son envie de continuer son métier d'acteur dans la marijuana. Voilà, et moi je salue Morgan Freeman, je salue son courage, parce que C'est courageux, c'est pas toujours simple de faire ce coming out cannabique. Voilà, bravo Morgan Freeman, et ça me fait plaisir parce que j'aime bien cet acteur en plus. Voilà, donc bon, allez, un peu de musique et on revient tout de suite après pour parler un peu de Cannabis Club en Espagne, à Barcelone, vous allez voir. À tout de suite.
Et on écoute IAM.
Respect to the Head Squad, mais moi à Marseille. Seuls les noms ont été changés pour protéger les coupables.
Comme au football, ils ont fait un team et ont tous unis pour le meilleur et pour le pire. En période de pénurie, ils ont tenu ahuri, ménageant les troupes les plus dures de leur écurie. Les champions du monde, tant de populaires se mettent place pour le strip le plus long. Chacun s'exerce à pomper comme une chanteuse et filme plus de joie qu'il y en a dans un moteur de Mercedes.
Allez, goûte-moi ça, mon fils. Te barre et je parie que tu te prends pour un ménophis.
Non, merci.
Et toi, Joe?
Non, de même. Cela n'empêche pas que l'on approuve quand même. Ils sont nos amis. Quoi que j'avertis, sors ta plaque, le shitstorm est de la partie. Ne reculant devant rien, ils voulaient les mettre tout dans le zigzag. Bad brossard, écoute bien, je parle clair. On mord le shitstorm.
Friantise à merveille avec la Heineken pour la faction qui sévit à la plaine. Et n'essaie pas de ramener ton XZX ni ta poudre. Ils prennent un coup de pied, ce qui se fixe. Le noir qui brûle seul à la poubelle vite.
On ne fume pas les charabies.
On sait alors. Ce qui peigne d'être en vrac et dans le goût et qui hanté sur les lahas des hamaloulous. A cause de qui split et gardes sont mêlés. Confusion, ils favorisent l'extension des rats de la prohibition. Beaucoup ne voient pas que la légalité cache des produits analogues. Alcool et tabac sont des drogues. Mais le squad lutte contre le protectionnisme et prône la déchirure permanente comme schisme. Certains fument trop de longue avec leurs poteaux qu'ils héritent aussitôt d'une ganache de toxico. Les mythomanes sont pas mal aussi. Ainsi, ils ont un stick de chèvrefeuille. Ils croient taper la saisie qui est là pour mettre à la poubelle les spliff crades.
Le shit squad, je roule avec 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 le shit squad. Les motifs sont différents. Le résultat unique.
Les uns penchent vers le squad, les autres penchent vers le shit.
Sauf que le soir, les premiers se couchent et speed.
Les seconds ont tout le temps les yeux rougis par la fatigue.
Est-ce le travail qui les tue?
Mais tu délires.
C'est l'effet secondaire.
Les cigarettes qui font rire.
Jamais hargneux.
Ils restent de bronze. Ils sont très flous.
Flou. Chez nous on dit des buzz. Après 15 ans passés dans un brouillard épais.
Oh oh, la gravité a frappé.
Sans vouloir faire de publicité,
je roule avec OCB.
Oui tu connais.
Le shit squad est le squad le plus bad, oui.
Le seul en action de midi à minuit.
Et Shuriken et Chill fume le mic et ça frappe man. Voici quelque chose pour abuser de ton Walkman.
Imhotep l'architecte est au contrôle musical. Il aimerait que le travail soit un repos dominical.
Au shit squad de répondre sans tabou. Nous comme les pandas on vit dans des forêts de bambou.
Et j'ai un truc pour que la vie ne soit pas fade.
Roulez avec le shit squad.
Je roule avec le Shit Squad. Vous avez bien entendu, d'IAM dans leur premier album Ombre et Lumière, Ça a une vingtaine d'années, ce morceau. qui est un morceau sympa, rigolo. Les paroles sont sympas, il faut tendre l'oreille quand même, parce que bon, des fois, c'est pas évident à comprendre toutes les paroles. IAM qui, il y a 20 ans, a tenté un petit peu de faire avancer les choses, de prendre une petite prise de position sur le sujet. On les avait vus à l'époque, c'était un peu sur Canal+, dans Nulle Part Ailleurs, c'était un peu la seule chaîne où on pouvait un peu parler de ces choses-là. Il y a eu Jean-Pierre Galland notamment qui était passé dans Nulle Part Ailleurs, on s'en rappelle, ou pas, souvent pas d'ailleurs, malheureusement. Et puis IAM, voilà, avec ce morceau dans leur album, timidement, avait tenté. Bon, puis on les a un peu, on leur a dit de la fermer, et puis ils ont obéi. Malheureusement, je trouve que c'est un peu ça qui est gênant en France. Beaucoup d'artistes, à mon avis, beaucoup d'artistes en consomment. Certains aimeraient peut-être pouvoir en parler, mais on leur dit non, faut pas le faire. Puis d'accord, je veux fâcher personne, parce qu'il faut quand même que je vende mon disque et qu'on aille voir mon film au cinéma, et puis qu'en plus j'ai aussi la production, les réalisateurs obtiennent le financement auprès des autorités pour les subventions, tout ça. Donc on faut pas écorner l'image, faut pas montrer qu'on est clivant, c'est tout ça pour ça. Hein. Puis une censure, hein, aussi carrément une censure de l'État. À l'inverse, aux États-Unis, on l'a vu avec Morgan Freeman, hein, qui a fait son coming out cannabis et qui ne se cache pas qu'il en fume parce qu'il aime ça et puis parce qu'il a des douleurs. Et puis aux États-Unis, Whoopi Goldberg également. Et puis, on n'en parle même pas, mais Snoop Dogg, hein, Snoop Dogg qui veut s'en lancer dans le Uber Pop du cannabis. Aux États-Unis. Et puis une présentatrice de journal télévisé qui en Alaska a démissionné à la fin du journal pour faire son coming out et dire qu'elle était présidente du cannabis club local. C'est des choses qu'on malheureusement on peut difficilement voir ici. Pour terminer, il nous reste 7 minutes avant Chasseur de son. Ça se passe en Espagne. Il y a des cannabis clubs qui existent déjà en Espagne depuis 2014. On ne peut cependant plus ouvrir de nouveaux cannabis clubs. En Catalogne, ils ont le statut d'association, mais il y a quand même une valeur. La valeur des lieux déjà existants a considérablement augmenté. Les licences d'exploitation des locaux peuvent valoir jusqu'à 1 300 000 euros. Et posséder l'un des 150 clubs de consommation de cannabis qui restent à Barcelone peut être une très bonne affaire. Le manque de régulation du secteur et la campagne du gouvernement espagnol contre le cannabis a fait émerger toutes sortes d'activités relevant du marché noir. C'est sûr. Et si l'on régule tout le processus de la culture du cannabis jusqu'à jusqu'à la consommation, alors on pourra en finir avec ces marchés parallèles. Voilà ce que disait à la Vanguardia des cultivateurs de marijuana. Cependant, les Barcelonais ne verront sans doute pas la mise en place d'un cadre réglementaire avant les élections régionales en Catalogne qui auront lieu le 27 septembre 2015. Mais on peut rester optimiste avec ce qui se passe là-bas. Leparisien.fr, 4 stratégies pour limiter la consommation massive du cannabis chez les jeunes aux États-Unis. À ce jour, donc, 4 États ont légalisé, l'État de Washington, alors d'abord le Colorado, l'État de Washington, l'Oregon, là on nous parle de l'Arizona, non, c'est plutôt l'Alaska. L'Arizona, c'est peut-être pas loin, mais pas encore, il y a une petite erreur là. Mais également le district de Columbia, de Washington, également Washington DC, District of Columbia, c'est ça que ça veut dire. Il y a également la ville de New York, Mais dans ce contexte, il y a des chercheurs en santé publique de la Bloomberg School of Public Health de l'université de Johns Hopkins qui ont vu une fenêtre d'opportunité unique pour mettre en place un environnement réglementaire qui minimise son accès aux jeunes. Vous avez bien entendu, on réfléchit à comment limiter l'accès en mettant en place un environnement réglementaire, c'est-à-dire une légalisation qui minimise l'accès aux produits des jeunes. Les législateurs et organismes de réglementation auraient beaucoup à apprendre des succès et des erreurs de l'industrie du tabac et de l'alcool en tenant ces substances dangereuses hors de leur portée. Voilà ce que dit Brendan Saloner, l'un des co-auteurs de cette étude parue le 4 mai dans la revue Pediatrics. Donc 4 stratégies sont suggérées pour prévenir la consommation de cannabis chez les mineurs. Utiliser les taxes et fixer des prix élevés pour dissuader les jeunes d'y avoir recours. Les études menées sur le prix du tabac montrent en effet que les consommateurs en herbe y sont sensibles et qu'ils ont tendance à réduire leur consommation à des niveaux plus important que les adultes. Réguler l'accès au cannabis et par la mise en place de contrôles et de sanctions plus sévères, malgré l'interdiction liée à l'âge de moins de 21 ans, par exemple pour le tabac ou les cigarettes aux États-Unis, un certain nombre d'adolescents arrivent à se procurer alcool et cigarettes dans les commerces. Il s'agit donc d'être plus vigilant pour renforcer les mesures existantes. Les États devraient également réguler les emplacements de détaillants de marijuana pour éviter qu'ils ne se trouvent aux abords des aires de jeu ou des écoles. Voilà un peu ce qu'ils ont déjà un peu réfléchi en Hollande depuis au moins 30 ou 40 ans. Autre stratégie, prévenir l'ingestion accidentelle de cannabis par les enfants en imposant une signalétique sur les aliments contenant du cannabis ou à base de cannabis et en limitant la concentration du THC dans ces aliments. Également, adopter un étiquetage neutre pour les produits du cannabis ou un système de sécurité enfant, comme ce qui est utilisé par exemple pour les médicaments et qui fonctionne bien. Et enfin, limiter la promotion et le marketing de ces produits. Des études ont révélé que la publicité sur l'alcool et le tabac est associée à un usage plus important de leur consommation chez les jeunes. Voilà, bref. Vous avez entendu, on ne parle pas d'arrêter les jeunes, de les envoyer 6 mois au mitard ou quoi que ce soit. On ne parle pas non plus de les fouetter, on ne parle pas non plus de leur couper les doigts ou de je ne sais quoi. Non. Comment mettre en place un système régulier, clair, mais qui en même temps autorise la prévention, la taxation des produits. Voilà, c'est comme ça qu'on veut faire. Franchement, quand on lit ça, nous, on s'aperçoit qu'on est à des années-lumière. Dans le Connecticut, les législateurs envisagent même un projet de loi qui permettrait l'usage du cannabis à des fins médicales chez l'enfant. Chez l'enfant. Et oui, chez l'enfant. Parce que figurez-vous que c'est pas fumer du joint comme ça, mais certaines préparations à base de cannabis et de cannabinoïdes, notamment des préparations alimentaires, aux États-Unis en tout cas, sont données à des enfants qui souffrent d'épilepsie particulièrement aiguë. Et grâce à ces préparations, les enfants peuvent continuer à aller à l'école, ce qui est quand même pas rien. C'est possible. Et une précédente et récente étude montrerait que 4 Américains sur 5 sont pourtant toujours opposés à son utilisation, même médicale, en présence d'enfants. Malgré ça, on avance quand même. Bon. Donc voilà un peu ces stratégies. On ferait bien de s'en inspirer dans l'Hexagone, mais malheureusement, je crois que ça va pas être possible tout de suite. Voilà, il nous reste 2 minutes. Sinon, voilà, avec la légalisation aux États-Unis et notamment dans l'État de Washington, le Seattle Times nous rapporte que la police de la ville de Medford aurait demandé $24,000 à la municipalité pour embaucher de nouveaux chiens qui ne signaleront plus que les drogues dures et plus le cannabis. Parce que ça sert plus à rien maintenant que c'est légal. Donc la police de Seattle a par exemple commencé à essayer de désensibiliser les chiens au cannabis, mais les experts ne sont pas sûrs de l'efficacité de ce processus, et donc certains chiens qui n'auraient pas pu être désensibilisés pourraient se retrouver à travailler en prison où la possession de cannabis continue d'être illégale pour le moment. Ça fait changer beaucoup de choses, et donc il nous reste 1 minute, on va commencer, et la semaine prochaine je vous l'assure, on en parle vraiment à propos de cette guerre aux drogues, guerre raciale. J'ai lu l'un des premiers paragraphes. J'en étais où? Ah oui, il y en a qui. Tu m'as fait perdre mon fil là. je vais vous lire l'autre paragraphe de cet article, qu'on peut trouver sur le blog de Mediapart. Excusez-moi un peu pour cette petite coupure. Donc en 1980, l'héroïne règne en maître dans toutes les cités de la banlieue. La population des jeunes Français issus de l'immigration née dans les années 60 est touchée de plein fouet. Mort du sida, mort en prison, mort d'overdose, ils payent un lourd tribut à ce que l'on ne qualifie pas encore d'épidémie, mais déjà de fléau. La figure du dealer arabe de cité se construit tranquillement derrière le paravent de la lutte contre la drogue. La culture raciste de la police, le contrôle au faciès, tout cela est justifié, voire excusé par la sacro-sainte guerre contre l'héroïne. Un catéchisme lourdement rabâché à gauche comme à droite, comme le montre le film de Bertrand Tavernier, L627. En résumé, la stratégie policière de harcèlement des consommateurs et des petits revendeurs fut inefficace en termes de sécurité, dans le même temps a servi à creuser un fossé profond entre les habitants et la police nationale, et involontairement certes, mais a servi aussi à envoyer en prison des dizaines et des centaines de personnes et aussi à malheureusement en faire crever pas mal aussi. Et donc on va se quitter là-dessus et on repartira la semaine prochaine voilà avec cette question. Et où en est-on en 2015? Où en est-on? Où en sera-t-on? On verra la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de ce Cannabis Circus de ce lundi 11 mai. Le Cannabis Circus présenté par le Cirque Lyon, collectif d'information de recherche cannabique lyonnais, que vous pouvez joindre au 06 11 53 10 07. Un site internet www.cirque-lyon.fr. Cirque-lyon@no-log.org pour nous contacter. Cirque Lyon BP 93 043 69 605 Villeurbanne Cedex. Et je vous le redis, nous préparons l'appel du 18 juin qui se tiendra le jeudi 18 juin au Parc des Berges à Gerland. Et on a besoin d'un groupe électrogène de au moins 5 kW. Si vous avez des idées, contactez-nous au Cirque Lyon 06 11 53 10 07. C'est Chasseur de Son. À la semaine prochaine. Au revoir.